Bonjour à tous. 4 ans et demi se sont écoulés depuis l'enlèvement d'Ingrid Betancourt le 23 février 2002 par les FARC, Forces armées révolutionnaires de la Colombie. 4 longues années durant lesquelles ceux qui l'aiment n'ont cessé d'espérer. Sa mère, Yolanda Pulecio Betancourt, est à mes côtés. Elle vient de publier chez Robert Laffont un recueil de lettres dédiées à sa fille qui s'intitule « Ingrid, ma fille, mon amour ». Elle nous dira où elle puise sa force et son énergie pour ne pas céder au découragement. Alors si votre enfant est éloigné de vous, soit parce qu'il est en prison, racontez-nous comment vous vivez cette épreuve. Est-ce que ça vous a rapproché ou au contraire ça vous a éloigné de lui? Peut-être que votre enfant est entre les mains d'une secte et que vous remuez ciel et terre pour essayer de le sortir de là. Venez partager avec nous vos espoirs, vos doutes, vos angoisses. Vous pouvez témoigner au 01 42 32 15 15. Nous sommes en direct comme tous les après-midi. Jusqu'à 15h30. Yolanda Betancourt, bonjour et bonjour. Merci d'être là. D'autant plus, vous êtes arrivée hier, vous êtes encore un peu en plein décalage horaire et vous venez de passer une semaine éprouvante puisque la semaine dernière, le président de Colombie, Uribe, a envoyé une offensive militaire terrible qui a fait une trentaine de morts et vous avez évidemment eu très peur.
Bon, d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation et en plus, je voudrais m'excuser auprès des auditeurs pour mon français. Mes enfants et mes petits-enfants parlent perfectement le français, pas moi.
On comprend très bien, il n'y a pas de souci, Yolanda.
Et bon, le président a dit dans son discours très fort. Il a tombé par terre tous les espoirs que toutes les familles avaient de la liberté de Ingrid, de Clara et de 58 politiciens, policiers et officiers de l'armée qui sont pris pour la guérilla, séquestrés pour la guérilla. Alors, c'était dans les moments où nous regardons plus proche une solution. Je rêvais de voir Ingrid pour Noël. J'ai parlé avec les enfants d'Ingrid. On était vraiment très heureux de penser que Noël et son anniversaire qui se lève en 5 décembre, on allait le passer ensemble. J'étais peu de jours avant à Florida y Pradera, que c'était l'endroit où la guérilla disait qu'elle allait se réunir avec les négociateurs du gouvernement. Et je suis allée là-bas, j'ai parlé avec les personnes, les habitants de la région, des indigènes, et tout le monde disait qu'elle allait nous céder, qu'elle n'avait pas de problème. En plus, la guérilla envoyait une vidéo avec un journaliste très courageuse qui est allée parler avec eux et pour dire au gouvernement qu'ils étaient prêts à recevoir les négociateurs. Alors, il y avait un espoir énorme. Et, bon, les choses se sont passées d'une façon différente.
Et c'est ce qui est terrible parce que dans ce livre, à travers ces lettres que vous écrivez, écrivez à votre fille Ingrid, on voit bien tous ces moments d'espoir où à certains moments vous espérez qu'enfin elle va être libérée et puis ces moments d'abattement qui succèdent. Mais pour revenir justement à ce livre, ces lettres, vous ne lui envoyez pas, vous les lisez en fait au téléphone.
C'est un cadeau pour Ingrid, qu'il sache. J'écris tous les jours. Et le soir, j'écris et l'endemain, à 4h30, je commence à voir comment je peux me communiquer avec l'émission de radio qui nous donne une heure pour parler au séquestré.
Alors justement, dans la première année de sa détention, vous ne connaissiez pas cette existence, donc vous ne pouviez pas établir de lien avec Ingrid. Comment avez-vous appris l'existence de cette émission de radio?
Bon, établir des liens, je ne sais pas s'il y arrive. J'ai l'espoir qu'Ingrid m'écoute, mais je ne suis pas très sûre. Il a dit, il y a 3 ans, dans les vidéos qu'elle a envoyées, ou que la guérilla a donné la permission d'envoyer, il dit, j'écoute parfois ma mère. Et c'est ça qui m'a donné la force pour faire tout le possible pour envoyer des messages tous les jours. Mais j'ai gardé les messages comme un cadeau pour Ingrid, qu'elle sache que sa maman a été toujours à côté d'elle. Pendant les... On va faire 5 ans. Alors, j'ai fait chaque message en racontant à Ingrid à peu près ce qu'on fait, on faisait toute la journée. Excusez-moi pour mon français.
Non, je vous en prie. C'est vrai que quand on pense, vous dites la deuxième, et dernière vidéo envoyée par la guérilla remonte au 30 août 2003. Depuis le 30 août 2003, vous n'avez plus de nouvelles d'Ingrid. Donc,
on ne sait pas. Je ne sais pas si elle m'écoute, mais je veux qu'elle sache que je suis à côté d'elle. Et les livres, c'est un peu un cadeau pour qu'elle se rende compte que j'étais toute la journée en faisant tout le possible pour l'envoyer de force, pour lui dire de ne perdre pas l'espoir, qu'elle continue avec la force que toujours elle a eu. Mais c'est difficile.
Bien sûr. On voit dans ces lettres, vous lui racontez votre quotidien, vous lui parlez de ses enfants, Mélanie et Lorenzo, à qui vous dédiez ce livre. Oui. Vous lui parlez de tout, même de Pomme, sa petite chienne, tout ce qui peut lui donner justement de la force pour tenir, pour supporter les conditions terribles de sa détention.
Oui, c'est vrai. Je ne sais pas, les conditions qu'il a, peut-être sont très dures. Ceux qui m'ont parlé m'ont dit que, par exemple, son lit s'est fait de 3 troncos, je ne sais pas comment on dit.
Des branchages
des arbres,
oui.
Et gros,
oui.
Et 3 branches d'arbres,
oui.
Mais plus de feuillage,
oui.
Et en plastique après. Que ça, c'est son lit. Alors, pour une maman, vous vous imaginez.
Dans une vidéo, elle racontait qu'elle marchait plus de 10 heures par jour dans la jungle. Et vous dites, en tant que maman, imaginez votre fille. Il y a des moments où il fait très froid et vous l'imaginez effectivement perdue dans cette jungle, ayant froid, ne mangeant pas toujours à sa faim. Et ça, c'est insupportable pour vous. Et ce qui vous aide à tenir, c'est le fait, justement, ce rituel que vous avez, de vous lever tous les matins très tôt, d'écrire à 4 heures, ça a un sens, hein, de lui écrire à 4 heures. C'est parce qu'il y a cette petite fenêtre entre 5 heures et 6 heures, cette émission de radio, où les familles peuvent essayer d'envoyer des messages à...
C'est entre 5 heures et 6 heures.
Oui.
Et
comment s'appelle-t-elle cette émission de radio? On peut en parler?
C'est Antenne 2. C'est l'émission pour les séquestrés.
C'est à la base un journaliste qui lui-même avait été kidnappé par la guérilla.
Ah, mais c'est une autre émission. Je parle tous les samedis après minuit pour une émission qui s'appelle Les voix des séquestrés.
Oui.
Et c'est un journaliste qui a été séquestré lui-même, mais ça c'est chaque 8 jours, le samedi, c'est-à-dire maintenant c'est dimanche, très très tôt parce que c'est à 1 heure du matin ou 2 heures du matin, ça c'est le samedi.
Oui.
Mais pour tous les jours, c'est différent. C'est une émission d'une autre chaîne de radio, c'est RCN 2, et c'est toutes les familles, nous savons que les séquestrés commencent très tôt et que la guérilla lui donne un petit radio.
Et vous savez que les FARC écoutent cette émission.
J'espère. J'envoie des messages. Par exemple, avant de sortir avant-hier pour la France, j'ai parlé avec Ingrid. Ça me faisait très mal de la laisser dans un pays si violent. sans sécurité. Et j'ai demandé au commandant de la guérilla de faire beaucoup d'attention avec Ingrid, parce que j'ai toujours très peur de les opérations militaires de l'armée.
C'est ça, chaque fois que vous devez quitter la Colombie, c'est une déchirure pour vous.
Hein, terrible, aussi.
Quand vous, pour Noël, alors c'est vrai que Noël, tout est dur dans cette absence, mais il y a des moments où, de l'année qui sont particulièrement durs. Noël approche, Ingrid est née 25 décembre, et vous dites qu'à chaque fois que vous quittez la Colombie, c'est comme si vous n'étiez plus là pour la protéger, pour veiller sur elle.
Exactement. Comme si je la laissais abandonner, c'est ça. Mais il faut être forte, je suis pas très forte.
Si, vous êtes très forte, Yolanda. Alors, c'est vrai que la première année, vous avez été, on peut dire quoi, hébétée de douleur, anéantie de douleur. Vous ne pouviez plus, enfin, même imaginer la réalité de l'enlèvement, répondre aux médias, c'était inenvisageable. Heureusement, il y avait votre fille Astrid auprès de vous.
Astrid m'a beaucoup aidée. Et c'est pour ça que je les remercie au livre, dans les livres Astrid, parce qu'elle m'aidait à tenir la force. Mais c'est difficile pour une mère. Je crois que c'est différent pour une mère ou une fille, parce que j'ai des amis dans des familles de séquestrées, que sa mère est séquestrée, et des mères que son fils sont séquestrés. Les maris et l'épouse, c'est terrible, mais ils sont les enfants, c'est différent. C'est une grande peine, mais pour une mère, c'est horrible. C'est horrible parce que tout me rappelle Ingrid. Je me souviens quand je prends la douche, quand à tout à l'heure, tous les heures de jour, je pense à Ingrid.
Oui, on sent bien dans vos lettres comme il y a Ingrid, petite fille, c'est-à-dire qu'on vous la supplie à un moment, vous apprenez, mais vous ne savez pas si c'est fondé ou pas, qu'elle aurait entamé une grève de la faim, et vous la suppliez de manger. Enfin là, c'est aussi la maman qui parle.
Oui.
Hein.
Oui.
Alors, c'est vrai que, dit la première année a été extrêmement, évidemment, difficile. Vous étiez anéantie, vous ne pouviez plus réagir. Il faut dire que cette année 2002 a été terrible pour vous, puisque vous avez également perdu le père d'Ingrid, dont vous étiez séparée. Mais il est mort un mois jour pour jour après l'enlèvement d'Ingrid.
J'ai beaucoup souffert, parce qu'il m'a donné aussi la force. On était ensemble dans toutes les situations si dures. Et la pire des choses, c'est de voir Astrid et de penser à Ingrid. Pour Ingrid, ça a dû être très dur et ça me faisait très mal. En plus de tout, qu'Ingrid souffre pour son père et qu'elle le regardait, elle ne pouvait le revoir dans la vie. Ça, c'est trop dur.
Vous pensez elle a appris, elle a su que son père était mort.
C'était parce qu'il y avait des journaux par terre, et elle passait, et elle a vu la photo de son père, elle a regardé, et son père était mort. La guérilla n'a rien dit à Ingrid. Même qu'au moment qu'il est mort, j'ai supplié la guérilla pour tous les moyens de faire quelque chose pour qu'Ingrid puisse arriver avant de qu'elle soit...
Elle a appris dans ces circonstances-là,
si.
Une photo de son père sur le journal.
Si.
Qu'est-ce qu'il vous disait, le père d'Ingrid, lorsque vous étiez découragé?
Il me disait
l'histoire
toujours...
de la feuille.
Si. Les feuilles de l'arbre ne se...
Aucune feuille ne bouge sans la volonté
sans
du
la
Seigneur.
Volonté de Dieu.
Oui.
Il me disait tout le temps, c'est pour quelque chose qu'Ingrid est là, tu peux rester tranquille, que Dieu va la couvrir et va la protéger. Et bon, ça me rassurait un peu. Ça me rassurait beaucoup, mais il y a déjà 4 ans, et on va avoir 10 mois, 4 ans, 10 mois. Ay, parfois, j'ai beaucoup de foi, vous savez que c'est la force que j'ai, mais parfois je demande au Seigneur pourquoi ne m'aide pas suite. Peut-être c'est une manque de foi, mais c'est
pas... Non, on peut comprendre. On peut comprendre, Yolanda. Il y a des personnes même qui auraient pu perdre la foi dans une telle épreuve. Vous gardez la foi, ça vous aide à vivre. Il y a d'ailleurs dans une vidéo, elle vous demande de dire le rosaire à midi pile, chaque samedi, si. Vous dites, hein, il y a des prières avec elle.
Si, samedi, avant de prendre l'avion, je me suis recueillie dans ma chambre en petite hauteur, altar.
Bon, hôtel. Oui.
Et je me concentrais pour penser à Ingrid pour qu'elle oui. puisse entendre que je continue avec elle.
Oui, que vous êtes auprès d'elle.
Et je priais oui. à la Vierge qui la protège.
Il y a ce lien, on le sent quand vous en parlez et quand j'ai lu votre livre, on sent cet amour très fort et malgré la distance, ce lien, elle le sait certainement, Ingrid, à quel point cet amour est là.
Bon, toutes les mères, nous sommes pareilles.
Pas toutes, pas forcément, Yolanda. On marque une petite pause et on va vous retrouver après.
Un livre aux éditions Julliard. Caroline Dublanche, jusqu'à 15h30 sur Europe 1.
Je suis en compagnie de Yolanda Pouletio-Bettencourt, la maman d'Ingrid, qui a écrit un livre qui s'intitule « Ingrid, ma fille, mon amour », paru aux éditions Robert Laffont. Alors, Yolanda, dans les moments d'angoisse, de découragement, c'est auprès des enfants de l'albergue que vous trouvez le meilleur réconfort. Parlez-nous un petit peu de ce que c'est que l'albergue, oui, cette fondation.
Oui, c'est une institution qui est fondée plusieurs années avant de me marier.
Oui.
Non, un an, parce que c'est 1958.
Oui.
J'ai fondé l'albergue pour les enfants de la rue. Et ça continue. Ça continue, il y a 5 maisons.
Il y a 5 maisons aujourd'hui qui recueillent.
Il y a une maison qui m'a donné Air France et la Fondation Suez. Et cette fondation, cette maison, c'est pour apprendre vite à travailler aux enfants. Parce que... Ils sont des enfants. Quand vous avez dit qu'avec tous les mères n'étaient pas pareils, je pensais aussitôt aux enfants de l'albergue.
Eh oui, c'est pour ça.
Parce que ce sont des mères, bon, on ne peut pas les juger, mais qui sûrement ont été violées. Ils sont des mères qui n'acceptent pas avoir un enfant, que c'était une charge énorme pour elles, parce que la pauvreté, c'est une chose horrible en Colombie. Et qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas quoi donner pour nourrir ses enfants, et qui donnent de la drogue maintenant, mais ça c'est dernièrement, qui donnent une chose qui s'appelle bazooka, que ça brûle
les neurones, les cellules du cerveau.
Ils donnent parce que les enfants, comme ça, alors ne demandent pas de la nourriture. Ils sont abrutis avec ça.
Mais là aussi, Yolanda, enfin, on voit les valeurs que défendait Ingrid dans son engagement politique. C'est des valeurs aussi que vous lui aviez transmises, parce que vous êtes issu de la haute société colombienne, vous auriez pu mener une existence luxueuse et futile. Et au lieu de ça, vous vous êtes engagé auprès vraiment des plus démunis, les enfants des rues, à un moment où l'engagement humanitaire n'était pas très répandu, hormis ce qu'on appelait les œuvres de bienfaisance dans la bonne société, justement. Mais vous, ce n'était pas ça.
Il y a une chance énorme.
Parlez de chance, c'est votre engagement déjà.
Oui, mais vous savez, plus on donne, plus on reçoit de gratification. Et avec les enfants, j'ai une énorme gratification. Maintenant, à mon âge, j'ai beaucoup d'enfants et de petits-enfants qui m'appellent encore maman. Oui. Et ce sont, quand je les regarde parfois, ce sont vieux déjà. Moi aussi, bien sûr. Mais
non.
Je me dis, et qui me dit maman, et qui m'appelle encore, oui. Qu'est-ce que je dois faire parce que mon fils a mis en boucle, par exemple, en boucle à l'oreille, et ça, c'est pas bien. Et il faut les aider à supporter mille choses pour qu'ils élèvent bien ses enfants. Une chose que j'adore chez les enfants qu'on a recueillis, c'est qu'ils sont des bons parents. Que la première chose, c'est faire quelque chose pour que ses enfants puissent bien s'en sortir, oui, et s'élever.
Mais ça veut dire que dans ces structures, ils trouvent finalement une force, une solidité. Vous leur permettez de bien se construire psychologiquement pour devenir de bons parents.
Le problème maintenant, c'est que même qu'ils sont préparés et tout, ils ne trouvent pas de travail. En Colombie, c'est horrible parce que plusieurs garçons m'ont dit: Maman Yolanda, cherchez-moi un emploi. Sinon, je pars pour la guérilla. Je supplie de ne pas partir, ni pour la guérilla, ni avec les paramilitaires. Mais bien sûr, finalement, je ne trouve non plus comment les faire travailler. Ils disparaissent, peut-être. Ils sont partis pour la guérilla, parce que là-bas, on les offert un salaire. Sont des garçons de 18, 20 ans, mais qui ont déjà des enfants.
Mais ce qui est terrible, c'est qu'à un moment, vous en parlez aussi dans le livre, vous dites pourquoi les phares ont enlevé votre fille, puisque finalement, elle mettait dans son programme certaines de leurs convictions, elle les partageait, c'est-à-dire la réforme de la culture agraire, un partage des richesses, lutter contre la corruption, elle avait des convictions communes.
Dès qu'elle était petite, elle a grandi avec les enfants de la rue.
Vous la meniez, Astrid et Ingrid? Vous les ameniez toutes les deux, non?
Tout le temps. J'y allais tous les jours. Et bon, ils ont commencé à marcher avec les enfants de la rue. Et réellement, et c'était ses frères. Et nous étions... Et mon mari aussi, il a beaucoup travaillé pour la Colombie. Il a fait une organisation pour prêter de l'argent aux étudiants qui soient très bien, très bons étudiants, mais très pauvres. Et il les faisait sortir des pays avec une bourse.
Il était ministre de l'enseignement, ambassadeur de Colombie auprès de l'UNESCO.
Et il était sous-directeur de l'UNESCO. Et c'est pour ça que j'ai vécu ici en France longtemps. Et après, il était ambassadeur auprès de l'UNESCO.
Vous dites à un moment que c'est l'enlèvement d'Ingrid qui vous a ouvert les yeux sur la réalité de la guerre dans ce pays, la Colombie, sur la souffrance des paysans. Ça paraît étonnant parce que, justement, vous étiez déjà très impliqué dans la vie politique, aussi dans votre combat auprès des enfants des rues.
Oui, malheureusement, c'est vrai. La guerre, la guerrilla était loin. Était comme loin, parce que la Colombie, c'est très grande. Et dans les villes, on ne se rend pas compte des conflits. Mais les conflits, c'est depuis 40 ou 50 ans. Ce n'est pas hier. C'est un conflit que je crois que c'est parce que toujours il y a eu des marginaux. Et les gouvernements, un après l'autre, ne se rendent pas compte de plusieurs Colombiens qui n'ont pas de solution, ni d'éducation, ni de santé, rien. Et ça continue encore pire maintenant. Parce que le président Uribe, la seule chose qu'il pense, c'est dépenser l'argent d'armement. Et pour moi, c'est terrible. Je lui ai dit, le jour qu'il m'a reçu, parce que...
Oui, c'était difficile qu'il vous reçoive.
Ça continue. Oui. Pendant un an, j'ai demandé un rendez-vous. Il m'a donné, il y a un an, un rendez-vous. Et entre toutes les choses que j'ai parlé, je lui ai dit, monsieur le président, écoutez, il faut penser de ne pas dépenser l'argent de Colombie en... achetant des armements pour que nous, les Colombiens, nous matemos, on va se tuer entre nous. Et surtout, il faut donner des opportunités aux gens pour s'en sortir de la pauvreté.
Mais finalement, lorsque vous abordez ce sujet, là aussi, dans les soirées ou les cocktails d'ambassade, vous dites que vous vous heurtez souvent à une indifférence générale.
Oui, il y a une indifférence.
Comme si ça s'était banalisé, quoi, cette guerre civile qui existe.
C'est banalisé tout, par exemple. C'est très difficile de trouver un support,
un
soutien, solidarité, avec les problèmes des séquestrés, par exemple, parce qu'ils sont habitués. Il y a eu plusieurs séquestrés pour l'argent. Il y a eu beaucoup. Et maintenant, pour les politiques, il y a une solution, que c'est l'accord humanitaire. Ils ne comprennent pas. On dit, mais comment est-ce qu'on va à échanger des mauvais pour des gens bons citoyens? C'est pas ça.
C'est-à-dire qu'il y a trois sortes d'otages. Il y a effectivement les otages politiques dont Ingrid fait partie. Il y a les militaires et les policiers.
Non, ils sont avec les politiciens.
Ils sont avec les politiques. Bon, oui. Première page de votre livre, il y avait dans ces trois cas. Donc, vous faites bien de me reprendre. Il y avait l'autre cas, il était trois cas de figure, qui étaient les gens qui étaient enlevés pour des rançons, pour l'argent.
C'est vrai. C'est horrible, mais c'est plus facile, parce que si c'était pour de l'argent, même si on n'a pas d'argent, on la cherche partout. L'argent, c'est une chose qu'on arrive à trouver. Ouais. Mais arriver à faire bouger une tête dure, comme le président de Colombie et comme les guerrilleros, ça... C'est la chose la plus
difficile. 3 000, c'est ça le chiffre? 3 000 personnes seraient actuellement otages? On ne sait pas précisément.
On ne sait pas. C'est peut-être moi. Les gouvernements ont dit que 3 000, mais je ne crois pas, parce qu'il y a des gens qui sortent vite s'ils payent la rançon.
Mais ça paraît fou que comment un pays peut-il accepter que 3 000, peut-être moins, de ses compatriotes soient détenus comme ça dans la jungle. Enfin, quel pays pourrait supporter ça?
Aucun pays. Comment comprendre que l'État ne fait rien pour les soldats qui travaillaient pour la patrie, comme dit le président, et qui sont là-bas depuis 8 et 9 ans? Comment les laisser pourrir dans la forêt? Moi, je ne comprends pas.
Bien sûr, mais est-ce que justement le décalage qu'il y a entre le formidable élan de solidarité qu'il y a ici en France autour d'Ingrid, et finalement parfois l'indifférence, voire le mépris auquel vous vous heurtez dans votre pays?
Oui, c'est une énorme différence. Les Français ont été très solidaires avec nous. Ce n'est pas seulement le peuple français que je ressens, et ça me réchauffe le cœur de voir qu'ils... Oui, vous vous préoccupez vraiment pour la situation d'autres. Et le gouvernement français nous a beaucoup aidés, mais beaucoup. Même le président, il m'a dit, c'est prioritaire. Chercher une solution pour Ingrid et tous les autres. C'est pas seulement pour Ingrid.
Oui, c'est important de le dire parce que certains, parfois des esprits chagrins, on pourrait dire comme ça, ont reproché qu'il y avait beaucoup de battage médiatique fait autour d'Ingrid et qu'on ne parlait pas des autres. Mais on pourrait rétorquer que finalement, le fait qu'on en parle peut aussi bénéficier aux autres.
Oui, sinon... elle est devenue un symbole. Elle est devenue un symbole, et c'est peut-être la seule chose positive dans toute cette souffrance, parce que comme ça, c'est pas seulement pour Ingrid, c'est pour tous les autres. Que peut-être si Ingrid n'était pas là, c'était le silence.
Oui.
Et maintenant, le président sait qu'il a...
Oui.
Il est poussé tout le temps pour la communauté internationale. Et pour toutes les familles qui ont décidé de parler, parce que par exemple, les maires des policiers n'avaient pas un endroit où parler. Et maintenant, toutes les émissions de télévision, de radio se préoccupent, tous les journalistes se préoccupent pour la situation.
Est-ce que vous avez été étonné de l'élan de solidarité qu'il y a eu ici, en France, autour de votre fille, toutes les communes qui l'ont nommée
ici en France d'honneur, et en Belgique. Il y a une personne qui a fait vraiment beaucoup à travers Internet. Oui. Et c'est Armand Bourguet qui nous a beaucoup aidé et tous les comités qu'il y a en France et tout l'appui de l'Europe. Vous savez, quand je vois la solidarité, c'est parce que vous avez des valeurs précises, fondamentaux, la liberté, la vie. Les valeurs de la vie et la liberté, c'est fondamental ici. Pour nous, c'est normal qu'un massacre, on regarde la télévision, et je suis angoissée de voir la quantité de morts qu'il y a tous les jours. Que la guerre nous a... C'est une habitude qu'on tue tous les jours des gens qui meurent, et des soldats. Et aussi des guerrilleros, pourquoi pas? Les guerrilleros sont colombiens et sont aussi des gens qui peut-être se sont trompés dans son intérêt pour faire quelque chose, mais qui sont humains, c'est d'être humain colombien.
Ingrid se battait d'ailleurs pour que ses enfants et tous les autres enfants puissent grandir dans un pays libéré de la corruption.
Ah oui. La corruption en Colombie, Ingrid me disait, maman, et quand j'arrive au pouvoir, tu vas voir, la Colombie c'est un pays riquissimo, c'est très riche, c'est un pays plein de ressources. Mais on vole, plusieurs politiques se font élire pour avoir de l'argent. Maintenant, la corruption, c'est terrible partout, dans tout. On regarde et ça continue.
Là aussi, votre fille l'a dénoncé dans son livre, finalement, oui. Où elle disait que le président Ernesto Samper avait financé sa campagne électorale avec l'argent de la drogue. Elle avait été menacée de mort pour cela.
Oui, c'était tout à fait vrai. C'est pour ça que les enfants ont dit sortir des pays. Et pour Ingrid, c'est séparé de ses enfants.
On va marquer une petite pause, et on en parlera de Mélanie et Lorenzo, parce que eux aussi comptent beaucoup, et c'est un soutien important aussi pour vous. Comment vivre l'absence de son enfant, ne pas se laisser aller au découragement, trouver la force et l'énergie de continuer à espérer et à lutter. On en parle avec Yolanda Puleccio-Bettencourt cet après-midi, qui a écrit « Ingrid, ma fille, mon amour » paru aux éditions Robert Laffont. Alors justement, parlons aussi un petit peu de Mélanie et de Lorenzo. Qui sont les enfants d'Ingrid. Alors Mélanie, on l'a vu beaucoup dans les médias. Elle ressemble beaucoup à sa maman. Elle s'exprime toujours très clairement. Elle est toujours très digne. Elle semble très forte. Et en même temps, on peut imaginer à quel point ça doit être difficile pour eux. Toutes ces années comme ça, privées de leur mère. D'ailleurs, il y a un passage où, à un moment où vous en parlez, où Mélanie vous dit que finalement, toutes ces années perdues, jamais vous les rattraperez, que en fait, vous ne guérirez jamais de cette douleur ni de cette attente. Et Mélanie dit, nous sommes des êtres amputés.
Oui, c'est vrai. Pour les enfants, c'est très dur. Mes petits-enfants sont... Bon, adorable.
Oui.
Mais en plus, ils ont beaucoup souffert. Et j'imagine à sa mère qui n'a pu voir les grandir dans des moments si importants pour Mélanie et pour Lorenzo.
Quel âge avait-il au moment où la maman
Lorenzo, il avait 13 ans
Oui.
Et Mélanie avait 16 ans.
Oui, mais, un âge où on a particulièrement, enfin, on a toujours besoin.
Hein, oui, mais à ce moment-là, c'est la formation.
Oui.
Et il fallait que sa mère soit à côté. Elle est son père très bien. Heureusement, et je crois que ça rassure beaucoup ma fille. Parce que Fabrice Deloitte, il a été un très très bon père.
Il a beaucoup pris le relais
si.
Et il s'est beaucoup occupé si, d'eux.
Heureusement.
Oui.
Heureusement.
Et puis votre famille est très unie aussi. C'est-à-dire que.
Si, mais c'est une famille. Je suis très unie avec, bien sûr, Astrid. Mais le reste de la famille habite aux États-Unis. Et les autres sont morts. La famille de mon mari, presque tous les frères et sœurs, tout le monde est mort. Mes sœurs sont habitées aux États-Unis.
Mélanie et Lorenzo vivent où aujourd'hui?
Ici à Paris, avec son père. Mélanie fait philosophie. Il apprend les russes. Elle a déjà appris l'italien. Et Lorenzo finit ses études baccalauréat, on dit, non?
Oui, oui, oui. Tout à fait, oui. Okay. Oui, parce que là aussi, vous nous expliquiez qu'ils n'ont pas pu rester en Colombie. Il y avait trop de menaces qui pesaient sur eux.
Je préfère mille fois que mes petits-enfants, celles d'Ingrid et d'Astrid, soient ici en France, où il y a une sécurité. Et je préfère mille fois parce qu'en Colombie, j'ai peur. J'ai peur toujours.
Vous avez peur pour eux?
Ah oui, bien sûr.
Pour vous, non?
Non. Enfin, jusqu'à maintenant, non, je n'ai pas peur pour moi.
On va accueillir Marie qui est avec nous, 01 42 32 15 15. Bonjour Marie.
Bonjour Caroline, bonjour Yolanda. Alors, moi aujourd'hui, je voulais vous parler, Yolanda, parce que je suis née en Colombie. J'ai été adoptée, mais bon, je suis très très proche de mon pays d'origine. Et c'est vrai que j'ai toujours été touchée par le combat de votre fille, essentiellement parce que c'est elle qui a quand même permis de mettre dans les médias, de faire connaître un petit peu les problèmes qu'il pouvait y avoir en Colombie. Et c'est vrai que... j'espère, enfin malheureusement, que cette situation pourra permettre qu'un jour la Colombie puisse devenir un pays de liberté, puisqu'on a, enfin moi j'ai la chance d'avoir grandi en France, mais je n'oublie pas continuellement, quotidiennement, les problèmes qu'il peut y avoir là-bas. Et c'est pour ça que aujourd'hui je voulais vous remercier, ainsi que votre famille, pour ce que vous faites, justement pour pouvoir dire à tout le monde ce qui se passe là-bas, alors que c'est quelque chose que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent. En France, c'est peut-être un petit peu plus quelque chose de connu, mais c'est vrai que dans certains pays, c'est une situation qui est complètement oubliée. Donc c'est vrai que je voulais vous remercier aujourd'hui de votre combat.
Parce que Marie, vous êtes née en Colombie et vous avez été adoptée...
C'est ça, quand j'étais petite.
Oui. Et vous voulez dire que on ne connaît pas bien la situation en fait du peuple colombien. Vous voulez dire ici en France ou?
Oui, j'ai l'impression qu'en France, ça commence à être de plus en plus connu. Mais je pense que c'est quand même un pays qui est oublié.
Qui est, pardon, on vous entend pas bien. Un pays qui est.
C'était un pays qui était oublié.
Oui.
Et donc on n'entendait pas assez parler à mon avis. Alors c'est vrai que comme l'Hollande disait que c'était un pays très riche, c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu dommage que justement par le biais des médias, franchement je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle de beaucoup de choses, de beaucoup de pays, de beaucoup de problèmes, mais moi je trouve que c'est pas un pays dont on parle assez et dont on insiste assez sur l'aspect positif qu'il pourrait aussi avoir dans l'avenir, j'espère fortement.
Justement, il y a un témoignage qui arrive de Marie-Françoise, mais elle ne souhaite pas témoigner. Elle dit que sa fille est étudiante en Chine avec donc des jeunes gens colombiens. Alors ça paraît étrange, elle dit qu'ils ne sont pas au courant du kidnapping d'Ingrid, ils ne savent même pas que les FARC enlèvent des gens. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps ils étudient en Chine, peut-être que par là Marie-Françoise veut dire que les propres personnes qui vivent sur place ne sont pas au courant de l'enlèvement des FARC. Ça vous paraît crédible, ça, Yolanda, que le peuple colombien n'est pas au courant de ce qui se passe réellement?
Si, c'est incroyable. Mais je voudrais parler à Marie. Elle remercie de m'avoir appelée. Elle dit qu'elle peut être fière de son pays. C'est un pays très merveilleux, vraiment merveilleux. Et elle dit que merci de s'intéresser pour les problèmes de Colombie. Malheureusement, il y a des problèmes, Marie. Mais vous pouvez être très fière de la Colombie. C'est tellement beau. Partout.
J'essaie de l'être le plus fière possible, justement, d'essayer de présenter ça sous peut-être un jour, avec un espoir un petit peu pour l'avenir. Je pense que, justement, vous êtes votre famille, et puis vos filles, je pense qu'elles représentent justement cet avenir. Et j'espère que dans l'avenir, on pourra justement avoir un pays qui soit bon, un pays de liberté, un pays démocratique, comme j'ai la chance d'avoir connu moi en France.
Oui. Je crois que vous pouvez aller n'importe quel moment, par exemple à Cartagena, mm-hmm. à Bogota, dans les villes, il n'y a pas de problème.
Bien sûr.
Vous pouvez aller à Cartagena, c'est très joli, et vous allez voir, c'est magnifique. Mais il y a les conflits armés depuis longtemps, malheureusement.
Oui, bien sûr, oui.
Si, ça existe, on ne peut pas le nier.
Non, non, bien sûr, je pense que justement, il faut le dire. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très bien ce que vous avez entrepris, parce que c'est important d'en parler.
Merci en tout cas, Marie, du soutien que vous témoignez à Yolanda cet après-midi et de là à sa fille Ingrid. Merci.
Merci
au revoir.
Merci, au revoir.
Alors, il y a également Bruno qui a envoyé un petit mail, qui vous écoute attentivement et qui dit chapeau bas, Madame Bettencourt. Je pense que l'on doit être nombreux en ce moment à être, vous écouter, à être bouleversé par votre combat. Je tiens à vous témoigner mon soutien. On peut se demander à qui profite cet enlèvement.
Merci beaucoup, Bruno.
Bruno, oui.
Merci, Bruno. À qui profite cet enlèvement? Ingrid est enlevée pour oublier, disons, au gouvernement à faire l'accord humanitaire pour sortir les guerriers qui sont en prison. Et c'est une façon de chercher quelque chose pour que réagisse le gouvernement. Mais c'est trop injuste. Mais ça profite à la guérilla, vraiment, à ce moment-là. Parce que tandis qu'Ingrid soit là...
En même temps, elle était très bien placée dans les sondages.
Oui.
Votre fille.
Oui, parce que.
Donc, c'est vrai que peut-être elle aurait pu mettre en danger les autres candidats.
Non, c'est pas pour ça.
Non, c'est une question.
Non, c'est pas pour ça. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand Ingrid était candidate avec Uribe? Ils sont inventés parce que maintenant est sorti à Barranquilla que le président était atteint d'une. Qu'on voulait le tuer à Uribe. Qui était candidate avec Ingrid. Et finalement, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Et on a mis en prison les personnes de la sécurité qui inventaient ça pour monter les sondages d'Uribe.
Ça, c'est ça, tout est. C'est très difficile, c'est très compliqué, hein, la situation de votre pays.
C'est
très difficile parce que on peut parler de guerre civile, ça dure depuis plus de 40 ans. Alors, par rapport à l'engagement politique de votre fille Ingrid, c'est vrai qu'il y a eu un tournant, il y a eu l'assassinat sous vos yeux le 18 août 89 du sénateur Luis Carlos Galán, qui était engagé dans la lutte contre le trafic de drogue. Vous le souteniez dans la course à la présidentielle. Et il se dit qu'à ce moment-là, vous avez dit à Ingrid, c'est le moment, il faut t'engager dans la vie politique. C'est ce qu'il se dit.
C'est pas moi qui avais Ingrid, c'est Ingrid qui a décidé.
D'accord.
Parce que j'étais avec Luis Carlos Galán dans l'endroit où il a été tué. Et j'étais vraiment bouleversée de voir la façon comme on l'a fait. C'était Pablo Escobar Parce qu'il voulait extrader, extrader les narcos. Et c'est pour ça qu'il a été tué. Avant d'être lui, il allait être lui. Et bon, il y a beaucoup de politiciens qui étaient d'accord avec Pablo Escobar pour tuer à Luis Carlos.
Quand votre fille Ingrid vous dit, alors, je vais m'engager, là, à ce moment-là, quel est votre premier réflexe? Vous ne cherchez pas à la dissuader, c'est tellement dangereux dans
votre
votre
pays,
pays.
Ingrid. Et dès qu'elle était petite, et mon mari et moi, nous disons, bon, il faut remercier l'opportunité que vous deux, Astrid et Ingrid, ont eu d'étudier et de se préparer à la France. C'est un privilège que n'ont pas tous les enfants de Colombie. Alors ça, c'est pour sortir la Colombie de l'état où il est. Et Ingrid était très consciente qu'il pouvait faire quelque chose. Et il l'a fait. Et elle était très consciente de ça. C'était pour elle comme un mandat, comme quelque chose qu'il avait dedans. Et une vocation de service pour les Colombiens.
Vous étiez fière de cette
Ah, très fière. Et moi, je comprends très bien qu'est-ce qu'Ingrid pouvait ressentir. Et il était très bien préparé. C'est une fille qui lisait
Oui, lisez.
beaucoup,
Oui.
très disciplinée,
Oui.
très organisée.
Oui.
Et c'était très important pour la Colombie. Et on croyait
Donc vous
que.
l'encouragez plutôt quand elle vous dit qu'elle veut s'engager en
Je
politique.
respectais et je respecte encore toutes les décisions de mes enfants. Parce qu'il me paraît que la liberté, c'est la première chose. Et je n'encourage pas, mais quand même, si elle décide de travailler pour la Colombie, bon, magnifique, on l'aide.
Il y a un regret d'exprimer dans ce livre, hein. Un remords, c'est de ne peut-être pas avoir été plus engagée dans
Je
son
vais vous
pays.
raconter pourquoi. Un jour, Ingrid était très jeune au Congrès, mais elle est arrivée avec une énorme quantité de votes. Il y avait un débat et je lui ai dit, Ingrid, je vais aller pour te voir. Non, maman, parce qu'on va dire que je suis la fille de maman.
Ouais, la fille d'eux, oui.
Si. Et je vais faire tout seul.
Oui.
Bon. Alors j'étais vexée un peu. Bon, pourquoi?
Oui.
Parce que comme je venais de sortir aussi du congrès, elle ne voulait pas que les gens croient, ouais,
Avez été
Ingrid, c'est la
députée,
fille de
sénatrice,
maman.
hein? Oui.
Alors c'est pour ça que je me suis éloignée un peu, pour ne pas faire ça. Un jour, je l'ai présentée avec des politiciens, je dis, ma petite fille, je dis comme ça. Et elle était furieuse avec moi, comment que ma petite fille?
La
Elle
petite
était déjà
dernière,
sénateur.
oui.
Elle était déjà sénateur.
Donc vous avez respecté
Ah
finalement son
oui,
désir
alors je me
de
suis
faire ses
dit,
preuves toute
le jour
seule.
qu'elle m'a dit, maman, tu veux rentrer dans la campagne, je lui ai dit, pense très bien ce que tu m'as dit.
On marque une petite pause, il
Oui.
va y avoir les informations et on va vous retrouver après, bien sûr, Yolanda. Alors Yolanda, y a une question de Josiane qui dit, mais comment faites-vous pour être aussi courageuse et survivre à cette peine? Josiane qui dit, je me permets de vous embrasser et dire en tout cas, votre fille Ingrid est très brave. Voilà. C'est vrai que je vous le disais un peu en vous recevant, vous êtes très belle, je veux dire très belle, mais à tous les sens du terme. Et c'est vrai, vraiment très belle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette terrible épreuve que vous vivez ne s'est pas marquée sur vous. Vous voyez, il y a des gens qui traversent des épreuves et leur visage se marque. Vous, il y a quelque chose presque d'une sérénité qui émane de vous. Et c'est vrai qu'on se demande comment vous faites pour tenir. Alors, vous me disiez que vous arriviez à bien dormir malgré tout ça, que c'est important pour vous. Vous arrivez à récupérer pendant votre sommeil.
Oui. Bon, je vais remercier à Josiane
qui est à Évreux.
Son appel. Et si je me couche très tôt, tous les jours, je regarde les nouvelles en Colombie, que c'est à 7 heures, et je prends mon repas dans mon lit et je m'endors.
Oui, il faut dire que aussi vous écrivez tous les matins à 4 heures.
C'est aussi non le soir.
D'accord.
Je commence à écrire tout ce, pour bien me souvenir de tout ce qui s'est passé dans la journée.
Oui.
Et je commence à appeler à la radio à 4h30 pour pouvoir me communiquer, parce que tout le monde appelle en même temps.
Oui, il y a ces jours où parfois vous n'arrivez pas à obtenir la ligne.
Et ça, je souffre énormément quand je n'arrive pas à me communiquer. Et bon, je crois, il y a une chose qui peut-être, c'est l'angoisse me donne des soif. Et je bois d'eau toute la journée.
C'est à la radio, mais je demande depuis le début beaucoup d'eau. C'est vrai, qu'est-ce que vous buvez? Yolanda, de l'eau, hein, je précise. Mais alors à un moment, c'était, il y avait au moins 4 ou 5 verres d'eau autour de vous. Alors, comme vous dites, ça pourrait vous donner faim et vous pourriez vous jeter sur tout ce que vous trouvez. Non, vous, c'est l'eau. Vous buvez, vous n'avez pas encore déjeuné. Mais non, vous tenez là aussi, hein, vous dites voilà, je déjeunerai après. Là, je suis venue, on parle d'Ingrid. Voilà, oui. C'est ça aussi, hein, oui. C'est tenir bon, rester digne, quoi qu'il arrive.
Oui.
Il y a également alors quelques réactions qui arrivent. Je crois qu'il y avait une auditrice qui posait une question. Je ne retrouve plus son nom, mais qui disait que effectivement votre fille a été enlevée à ce moment-là avec sa directrice de campagne. Oui. Il s'agit de Clara, que vous appelez Clarita,
oui.
Hein, affectueusement. Vous en parlez constamment dans vos lettres aussi. Vous demandez tout le temps des nouvelles de celle que vous surnommez affectueusement Clarita. Et elle dit, comment ça se fait qu'on n'en parle jamais?
De Clarita?
Oui.
Non, on parle toujours de Clarita. Et je parle toujours avec sa mère. Elle est très, très amie à moi. Et on se retrouve plusieurs fois. Et je l'appelle tout ce que je peux l'appeler. Et il faut, elle est forte, elle est bien, mais elle a un peu de problèmes de santé. Elle est un petit peu plus âgée que moi, je crois.
La maman de...
De Clarita.
Oui.
Elle a 5 enfants, 4 hommes, déjà de plus de 50, je ne sais pas. Et la dernière, c'est Clarita.
Quels sont vos liens avec les autres familles d'otages? Avez-vous créé des liens particuliers avec certains?
Si, avec des députés de Cali, et avec une fille qui était vraiment commande tout le reste, avec une dame qui travaille pour tous les policiers et les officiers, qui s'appelle Marlène Orjuela. Je suis très amie d'elle. Et aussi avec Patricia Perdomo, qui a sa mère séquestrée et qui vient d'avoir un bébé. Elle souffre énormément de que sa mère ne connaît pas le bébé. C'est très jolie, la petite. Une petite. Je crois qu'elle a déjà 6 mois ou quelque chose comme ça.
C'est-à-dire qu'elle a eu un bébé pendant sa captivité.
La captivité de sa mère.
De sa mère, oui.
De sa mère.
Il y a des messages aussi, puisque vous écoutez, hein, vous écrivez à votre fille Ingrid en espérant, vous espérez qu'elle entendra peut-être quelques-uns de ces messages, vous n'en savez rien. Il y a certains messages que vous entendez aussi qui vous bouleversent. Vous entendez cette femme qui parle à son mari, qui lui parle de ce petit garçon qui est né et qu'il n'a pas connu.
Et cette femme est... Elle attendait le bébé quand son mari s'est séquestré. Mais il y a plusieurs comme ça, qui peut-être venaient, mais qui avaient 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, et qui ne se souviennent pas comment était son père, seulement par les photos. C'est trop triste parce que les enfants parlent au papa et raconte tout ce qu'il fait à l'école et tout ça. Ça, parfois, moi, que je pleure, Il m'a fait plusieurs fois, je me suis rendu compte que j'ai pleuré pour eux. Mais n'importe qui fait, les passe la même chose, parce que c'est trop dur de voir.
Il y a des témoignages, il y a des appels qui sont poignants. Alors, on a parlé des réactions de solidarité, hein, de toutes ces manifestations qui vous font très chaud au cœur. Il y a aussi des réactions d'un cynisme. On a du mal à imaginer. Vous parlez notamment de l'ambassadeur des États-Unis à Bogota. Ou alors que vous lui parlez d'Ingrid et de la situation des autres otages, où cet homme, je cite ses propos, hein, et qui figure dans votre livre, vous répond « L'Amérique ne négocie pas avec des terroristes. Quant à moi, je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit, car je considère les otages comme des malades en phase terminale. » Comment cet homme, il vous a tenu ces propos-là?
Il m'a répondu comme ça.
C'est d'une violence. Comment
quelqu'un peut faire preuve d'humanité? On ne peut plus parler. Et c'est très dur quand je le retrouve, même les saluer, parce que ça me fait mal. Bien sûr.
Vous êtes très bien éduqué. Vous continuez à le saluer.
Bien sûr, oui.
C'est votre bonne éducation. Oui, mais je comprends que ça vous coûte. Humainement, il ne vaut rien.
Et j'habite en face de l'ambassade.
Vous habitez en face
de la résidence de l'ambassadeur. En face. Tous les jours, quand j'ouvre les fenêtres, c'est en face. Mm-hmm. Et je pense à lui. Il n'est pas marié, alors peut-être il n'a jamais eu un enfant. Et peut-être il ne comprend la situation. Il ne comprend pas.
Mm. Il y a ceux aussi qui exploitent le nom d'Ingrid pour gagner du pouvoir. Il y a aussi, vous parlez de ces petits escrocs qui cherchent à vous soutirer de l'argent au prétexte qu'Ingrid les a mandatés auprès de vous. C'est-à-dire qu'on découvre qu'évidemment, il y a ces gestes de générosité plein d'humanité. Et puis, il y a la nature humaine et il y a aussi les bassesses.
Ça existe malheureusement.
Oui.
Ils demandent de l'argent parce que qu'il a une lettre d'Ingrid, mais que si je lui donne 200 000 pesos, il va aller chercher la lettre, des choses comme ça, et après il disparaît. Au début, j'ai tombé dans les... Comment on dit?
Dans le piège, dans le panneau. Hein, vous racontez ce vieux paysan qui vient vous voir, qui dit qu'il est, envoyé par les FARC et puis qu'Ingrid a besoin de vêtements, de pluie. Ah, oui. Vous précipitez, évidemment.
Oui. Bon, maintenant, quand on m'appelle comme ça, je raccroche. Parce que je sais que non. Ça, c'est directement. Ça serait merveilleux si la guérilla m'appelait un jour directement. J'ai beaucoup parlé avec les guérilleros qui sont en prison. Je suis allée les visiter plusieurs fois.
Qu'est-ce que ces échanges vous ont apporté?
Je me suis rendu compte qu'il y avait des commandants, que plusieurs d'eux qui étaient pour l'échange sont déjà sortis, qui sont déjà libérés. Et il y a beaucoup de gens jaunes qui sont là, qu'elles ont été prises et qu'elles sont en prison. Mais je regardais son visage parce que j'imaginais que c'était des monstres terribles. Je regardais que c'était des gens, je ne sais pas, parce qu'il faut les voir aussi humainement pourquoi ils se sont mis dans la guérilla. Et j'imagine qu'Ingrid est comme moi, qu'il doit dire, bon, il croyait peut-être, je ne sais pas.
Ils ont parlé, c'est là que vous avez eu un échange avec eux, vous avez pu parler avec votre cœur.
De la Colombie, de l'injustice sociale. Il y a beaucoup qui sont peut-être à cause de ça, parce qu'il était d'une classe marginée complètement, qui n'avait rien à... une proposition pour le futur. Il n'y avait pas rien à faire.
ne sont pas forcément les terroristes dont parlent certains. C'est-à-dire que même votre fille, Ingrid, ne voulait pas qu'on les qualifie comme cela. Elle était au contraire, elle voulait qu'il y ait des négociations avec eux.
Ingrid voulait la négociation et moi aussi, je comprends que la seule solution pour arriver à la paix en Colombie, c'est le dialogue. Et ça, c'est la chose que le président Uribe ne veut rien faire, rien écouter.
Où en est-on justement de cet accord humanitaire Vous prenez votre visage entre vos mains.
Oui, c'est bien sûr, parce que dernièrement, se sont passées des choses très dures pour nous. C'était le moment où on croyait plus à une solution.
Oui. Au moment où vous aviez l'impression enfin qu'il allait avoir quelque chose de possible.
Oui, j'étais sûre, vraiment. C'était une désillusion terrible. J'ai beaucoup souffert. Comme sont souffert toutes les mères et toutes les familles. On ne pouvait pas croire.
Mais pourquoi justement au moment, c'est là où on se pose la question quand même, c'est pas neutre, au moment où peut-être les négociations seraient sur le point d'aboutir, pourquoi une offensive militaire?
Je voudrais croire que le président voulait faire l'accord humanitaire. Mais ce que je ressens, c'est qu'il nous a mené en bateau pendant 5 mois. Et ça m'angoisse énormément. Parce que la seule façon que Ingrid soit sortie et tous les autres avec lui, c'est à travers un accord humanitaire. Et c'est aussi humaniser la guerre qu'il y a en Colombie, comme on le fait en Israël avec les Palestiniens.
Oui. On a réussi même dans ce contexte aussi tendu, aussi difficile, il y a eu des échanges.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi le président ne veut rien faire? Pourquoi? Pour moi, c'est très dur d'accepter et je ne vois pas la raison d'être comme le président agit sans tenir en compte les réactions et les conséquences de ses paroles et de sa position.
Vous êtes en France pour quelques jours, vous allez rencontrer les autorités politiques de ce pays?
Oui, j'espère, oui.
Alors, il y a Emmanuel, justement, qui pose une question, qui dit « J'étais admirative du courage d'Ingrid Bettencourt et je découvre avec émotion celui de sa maman. Y a-t-il un moyen de vous soutenir concrètement pour vous aider à libérer votre fille ? C'est ça, comment peut-on continuer à vous aider à se mobiliser efficacement, je dirais ?
Oui, c'est peut-être, comment il s'appelle, la personne qui...
Emmanuel.
Emmanuel, ça, c'est quelque chose que je me demande tous les soirs. Qu'est-ce que je peux faire encore? Comment peut arriver à convaincre personnes si dures comme le président de Colombie ou la guérilla? Qu'est-ce que je peux faire? Mais de toute façon, le soutien qui nous a donné la France et tous les peuples français et aussi les gouvernements, ça a été énorme pour nous, c'est l'espoir, parce que ça vraiment, on ressent très fort l'intérêt des Français et continuer à nous appuyer et moi à prier aussi. J'ai pris beaucoup à Dieu. J'arrive pour aller, par exemple, je vais aller à la Rue du Bac. Parce que Ingrid et moi, quand on arrivait à Paris, la première chose, c'était aller à la Rue du Bac.
Ingrid est croyante.
Si, Ingrid est croyante.
Vous pensez que ça l'aide? Non.
Bien sûr que ça l'aide. Oui. La foi, c'est quelque chose de très important. Je me demande comment font les gens qui ne croient à rien quand il se passe quelque chose de terrible dans sa vie. Si on n'a pas à quoi penser qu'il y a un être plus que pour encima d'elle. Je ne sais pas comment dire.
Oui, un être au-dessus, surnaturel. Enfin, non, on n'est pas dans. Enfin, au-dessus de soi, ça aide. Vous avez raison.
Oui,
ça aide.
Bien sûr.
Rue du Bac, vous allez faire des prières parce que vous y alliez avec votre fille.
Oui.
Parler, c'est aussi continuer à mobiliser pour ne pas tomber dans l'oubli. C'est une des craintes, notamment Mélanie, la fille d'Ingrid en parle, que finalement le pire, ça serait que cette situation se banalise, que cette situation de séquestrer, ben oui, finalement ça devienne un état de fait.
Oui, parce que les gens, bien sûr, se fatiguent de lutter et n'avoir aucune réponse. Et ça, malheureusement, ça peut arriver, mais je ne veux pas que ça arrive. Je veux que les gens continuent à nous aider.
À en croire les réactions qui arrivent au 01 42 32 15 15, les gens restent mobilisés ici, en tout cas. On accueille tout de suite Guy. Bonjour, Guy.
Oui, bonjour.
Alors Guy, vous êtes justement responsable d'un comité de soutien en Alsace pour la libération d'Ingrid.
Et je suis très touché et très heureux de pouvoir parler avec Yolanda.
Bonjour Guy. C'est très bien de vous entendre.
Oui, je dois vous dire que nous sommes quelques-uns à parler beaucoup de la Colombie, à parler de votre combat, à parler de votre fille. Je connais aussi Marlène Marie Duvar qui s'occupe beaucoup et... C'est l'occasion ou jamais pour vous dire que beaucoup de petits comités en Alsace sont peu connus, enfin même dans toute la France, mais même si on est petit, on fait beaucoup de choses pour la Colombie et surtout pour le soutien de votre fille, de Clara, qu'il ne faut pas oublier, car Clara n'a pas voulu partir quand les FARC voulaient la libérer, elle a voulu rester avec Ingrid. Et je trouve que ça, il faut lui rendre un coup de chapeau. Ouf. Et je voulais aussi parler du site Bettencourt Info, où les auditeurs peuvent voir tout ce qui se passe tous les jours, avec une revue de presse qui est très bien faite, les actions qui ont eu lieu, les actions qui vont avoir lieu. Et si quelquefois les gens me disent « ça sert à rien ce que vous faites », eh bien votre témoignage prouve que ça sert à quelque chose et que vous avez besoin qu'on vous soutienne. Oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et surtout vous dire le respect que j'éprouve pour vous et votre combat.
Merci Guy. Vous avez été toujours avec nous et je vous remercie du fond de mon âme. Et tout ce que vous faites, ça nous a aidé beaucoup. Je n'oublie jamais Clarita. Je ne l'oublie jamais parce qu'elle était, comme vous dites, elle n'allait pas s'être séquestrée. C'est elle qui a dit, non, je ne laisse pas seule Ingrid. Et ça, pour nous, c'est un valeur énorme de courage et d'amitié. Que je n'oublie jamais.
Je suis très contente que vous en parliez vous aussi parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on parle que d'Ingrid, or c'est faux. Tous les petits comités, comme les grands comités d'ailleurs, n'oublient pas d'associer Clara et de dire que surtout on est là pour parler de l'ensemble des otages de Colombie. Et je voudrais donner un exemple, par exemple la petite ville de Kaisersberg en Alsace, qui il y a déjà quelques années avait nommé Ingrid citoyenne d'honneur, cette année a aussi nommé Clara Rojas citoyenne d'honneur. Ah, et ça, c'est pour moi quelque chose de formidable.
Ah oui, c'est formidable. Je suis très contente pour ça.
Vous avez des actions de prévues prochainement?
On a quelques types d'actions qui souvent sont peut-être pas très grandes, mais on parle de la campagne Libertad, où les gens doivent faire une photo avec le mot liberté, Libertad.
Oui.
Et sur le site Bettencourt Info, il y en a actuellement plus de 5000, et chaque fois qu'on peut, sur le marché ou dans des petites réunions, on essaye de faire quelques photos. Toutes ces actions, d'ailleurs, peuvent être vues sur ce site, et il suffit de regarder la région où on habite pour voir.
Redonnez-le, le site, on va le mettre sur le site internet.
www.bettencourt.info. Mm-hmm. Bettencourt Info. Et surtout, il est très très bien fait parce qu'il y a une revue de presse où on peut voir tout ce qui se passe, tout ce qui s'écrit sur la Colombie. Et chaque fois, il y a le lien qui donne la source. Alors des fois, c'est l'ONU, des fois, c'est Amnesty International, des fois, c'est des grands journaux français. Mais ça permet de voir un petit peu que d'abord, on n'oublie pas les otages de Colombie. Mm-hmm. Et puis surtout que la situation en Colombie, comme le dit Yolanda, est vraiment très sérieuse et très grave. C'est un pays qui est en guerre quand même en guerre civile depuis plus de 40 ans.
Mm-hmm. Merci Guy d'avoir été avec nous.
Yolanda.
Moi aussi Guy, merci beaucoup.
Enfin.
Je transmets à l'instant d'ailleurs votre mail, puisque vous nous avez joint par ce biais. Je le remets immédiatement à Yolanda. J'imagine que tous ces messages, tous ces comités de soutien vous aident aussi. Vous dites d'ailleurs, il y a des moments comme ça, dans des moments de découragement, vous relisez ces lettres. Ah, ça c'est votre portable. Vous avez essayé de l'éteindre, mais vous n'y êtes pas arrivé. C'est pas grave. Il n'y a aucun souci, Yolanda. C'est vraiment pas grave. grave, ce genre de choses, vous savez. Vous dites dans les moments de découragement, vous relisez parfois les lettres comme ça, même d'inconnus, hein, qui vous écrivent pour vous dire de tenir bon, ces messages comme ça, plein d'affection, plein de chaleur, et ça vous aide aussi,
bien
vous
sûr,
trouvez du réconfort.
Ça nous aide énormément, bien sûr. Je garde tous les courriers pour Ingrid. J'ai déjà un placard plein de messages, mais que j'aime beaucoup, parce que ça, c'est une démonstration de solidarité énorme.
Et alors, pendant cette semaine que vous allez passer à Paris, évidemment, vous allez voir vos petits-enfants, Mélanie et Lorenzo.
J'ai déjà vu Mélanie, oui, hier soir, et Anastasia et Stanislas. Mm-hmm. Et j'étais toute la journée avec eux.
Qui sont les enfants d'Astrid.
D'Astrid,
hein?
Oui. Oui. Mais pour Lorenzo, il est à Reims, il est parti avant que je puisse le retrouver, mais il va revenir.
En tout cas, on vous souhaite vraiment de tout cœur de pouvoir serrer très vite Ingrid dans vos bras. On vous remercie encore, Yolanda, d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Et ça sonne pour vous, vous entendu, hein, je pense. Là, on rappelle le titre de votre livre qui s'appelle Ingrid, ma fille, mon amour, paru aux éditions Robert Laffont. Rappelons qu'une partie de vos droits d'auteur financeront la nourriture et l'éducation des enfants des rues, les albergues infantiles, cette institution que vous avez fondée. Merci et bon courage pour
Merci
la suite.
À vous.